Nous abordons maintenant notre troisième et dernier dossier d'actualité. Le Rassemblement national peut-il encore espérer une majorité absolue dimanche soir à l'issue du second tour des élections législatives? Non, si l'on en croit les derniers sondages publiés depuis hier. Oui, si l'on écoute la patronne du RN, Marine Le Pen était l'invitée d'Apolline Malherbe ce matin. Elle lance un appel pour obtenir cette majorité absolue. Écoutez-la.
Moi, je pense qu'il y a encore la capacité d'avoir une majorité absolue, pour peu que les électeurs, dans un ultime effort, viennent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et que ceux qui ne se sont pas déplacés, car il y en a, quelques millions d'électeurs du second tour de la présidentielle, par exemple, qui se sont abstenus et à qui je viens dire venez, parce que c'est vraiment le moment important pour opérer cette bascule, pour obtenir un changement de politique dans l'ensemble des domaines qui aujourd'hui vous font souffrir.
Avec nous pour commenter cette actualité, Mathilde Sirot, qui est rédactrice en chef du service politique pour Le Point qui en une nous propose sa France du 8 juillet avec Jordan Bardella. Dorian Dreuil, qui est politologue et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir. Mathieu Croissando, éditorialiste politique de BFM TV, et Thierry Arnaud, éditorialiste de BFM TV. Mathieu Croissando, est-ce que comme beaucoup d'observateurs, vous êtes très prudent vis-à-vis des sondages qui sont publiés et surtout des projections en siège avec des instituts qui s'était complètement planté au second tour des législatives, par exemple, il y a deux ans?
Oui, oui, parce qu'on sait que l'exercice de la projection au siège n'est pas un exercice automatique. Hein, oui. C'est compliqué, il faut tenir compte. On rappelle, il y a plusieurs élections. 500, il reste à peu près 500 circonscriptions à pourvoir. Donc c'est 500 élections, il y a des personnalités, il y a parfois des rivalités. On peut voter pour quelqu'un qui n'est pas du même bord. Oui. On peut à l'inverse bloquer quelqu'un du même bord parce qu'on ne le supporte pas. Donc la projection en siège, elle n'est pas automatique. Là, on a des fourchettes. On voit quand même que les désistements ont joué. Oui. La seconde raison qui me fait être prudent, c'est que on est quand même dans une période où on va regarder si la dynamique du premier tour s'enclenche. Mmh. En gros, il y a l'arithmétique des désistements et puis il y a la dynamique en politique. Est-ce qu'un vote pour, c'est-à-dire un vote pour le Rassemblement national
d'adhésion,
est plus efficace ou moins efficace qu'un vote contre? On va le vérifier dimanche et c'est pas évident parce que aller voter dimanche contre le Rassemblement national alors même que ces sondages et que ces projections en siège semblent écarter le risque, ça peut avoir un effet contre-productif. Voilà, c'est de la prudence, mais c'est pas... Mais
un peu de prudence, voilà. Ça fait du bien aussi. Mathilde Sirot, est-ce que la perspective, en tout cas on va dire, d'un Bardella à Matignon s'éloigne un peu plus au moment où nous parlons, quand on voit les différentes projections et toutes les dernières enquêtes donnent en gros la même chose? C'est-à-dire un relatif recul du Rassemblement national.
On en est, Yves, à faire des hypothèses. En tout cas, dans cette semaine d'entre-deux-tours, on a essentiellement parlé des mécaniques de désistement, des mécaniques de front républicain qui ont très bien fonctionné au niveau des appareils politiques, au niveau des états-majors. Mais en revanche, l'effet sur les électeurs, sur le bulletin de vote dimanche, il est très difficile à mesurer. Est-ce qu'il y aura davantage de votes blancs parce que un électeur insoumis, par exemple, aurait du mal à voter pour une Elisabeth Borne qui a bénéficié du retrait du candidat du Front populaire? Est-ce que, à l'inverse, du côté de François Ruffin, des électeurs macronistes se reporteraient pour prendre ces cas emblématiques ce qu'on a vu cette semaine dans les désistements? Donc voilà, la question du vote blanc, la question de la participation et l'inconnu de ces effets de désistement et du front républicain vraiment dans l'isoloir.
Dorian Dreuil, si les projections se confirment dimanche, ça voudra dire que le front républicain, ça marche encore en 2024?
En tout cas, il a marché au niveau des partis politiques, parce que mécaniquement, le fait de passer d'à peu près 300 triangulaires à une centaine de triangulaires, ça change la physionomie du scrutin dans l'entre-deux-tours. Maintenant, ce qu'on voit aussi dans les projections, c'est qu'on s'attend à une participation tout aussi élevée qu'au premier tour, en tout cas aujourd'hui dans les enquêtes. Et ce qui est intéressant dans ces enquêtes, c'est que la sûreté du choix, elle est très très forte, autour des 90%. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est faramineux et ça montre que les électorats, les socles électoraux se mobilisent, ou en tout cas restent mobilisés. Maintenant, il y a un déterminant qui reste à voir dimanche, c'est est-ce que des abstentionnistes du premier tour vont se mobiliser sur le deuxième tour? La réserve de voix des abstentionnistes aujourd'hui, elle est plutôt chez les moins de 35 ans, et donc elle est plutôt défavorable au Rassemblement national, mais reste à voir si, dans les dernières heures de cette campagne, ça va suffire à remobiliser cette tranche.
Alors Thierry Arnaud, l'un des derniers espoirs de Marine Le Pen, c'est de mobiliser les abstentionnistes. Le RN a quand même réuni 10 millions de voix au premier tour. Au second tour de la présidentielle, ils étaient de l'ordre de 13 millions de personnes qui avaient voté pour elle. Ça veut dire que potentiellement, il reste 3 millions d'électeurs mobilisables pour le RN ?
Oui, une des grandes interrogations, c'est de voir comment va se déployer le fameux adage, vous savez, au premier tour on choisit, le deuxième on élimine. Oui. Et il y a deux dynamiques au fond qui sont à l'œuvre. Il y a la dynamique qui porte le Rassemblement national. Ouais. Il séduit de plus en plus, on a envie de l'essayer, on a envie de le mettre au pouvoir. Et puis il y a la deuxième dynamique qui se superpose, qui est une dynamique négative. Oui. On veut sanctionner le pouvoir en place, on veut se débarrasser d'Emmanuel Macron et du macronisme. Et c'était ça le message des 13 millions de voix du deuxième tour. Il y avait aussi évidemment beaucoup de volonté de se débarrasser du président de la République et de sanctionner. Ce qu'on constate, c'est qu'à mesure que le temps et que les élections passent, on est de moins en moins rembuté par le fait d'utiliser un bulletin de vote hier Front National, aujourd'hui Rassemblement National, pour exprimer cette volonté de sanction. Donc oui, il y a un potentiel qui est évidemment très, très difficile à mesurer. L'effet repoussoir du Rassemblement National à jouer à plein au sein des appareils et dans les états-majors et dans les accords de désistement, c'est très difficile de dire comment il jouera auprès des électeurs. Et c'est ça l'incertitude qui pèse sur ces sondages, sur ces projections de sièges et qui nous incite tous, les uns et les autres, à être prudents parce que, à la base, ce qui compte le plus, c'est la dynamique. Et la dynamique politique aujourd'hui, elle est incontestablement en faveur du Rassemblement national.
Alors justement, Mathieu Croissando, il y a systématiquement plus d'électeurs pour le RN au second tour qu'au premier tour. En règle générale, ça s'est vérifié un nombre incroyable de fois. Ça fait la différence pour dimanche ?
Ça fait la différence. Et souvenez-vous que la dernière fois, en 2022, il y a le Rassemblement national envoie 88 députés à l'Assemblée. Oui. Il n'y a que 8 triangulaires de mémoire. Ils gagnent en duel dans la plupart
oui,
des cas.
En face à face.
En face à face, voilà. Donc ça veut dire que, globalement, il y a un sursaut de mobilisation à aller chercher. En gros, quand on interroge les spécialistes de la carte électorale, ils disent que tous les candidats qui sont arrivés à 45% au premier tour ont peu de soucis à se faire parce que la dynamique joue. Après, quand vous devez aller chercher plus, ça peut se compliquer. Mais encore une fois, tout va reposer sur les électeurs. Là, on a beaucoup parlé de mécanique d'appareil. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était il n'y a pas si longtemps, Elab, pour BFM TV, a publié un sondage dans lequel les électeurs d'ensemble et les électeurs du Nouveau Front Populaire, interrogés séparément, se déclarent majoritairement opposés au désistement. Deuxième chose, trois quarts des électeurs interrogés disent qu'ils ne suivront pas les consignes de vote.
Oui.
Alors c'était, vous me direz, il y a une semaine pile.
Oui.
Mais ça dit quand même quelque chose. On n'est plus sur des électeurs aujourd'hui qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à la consigne du patron de parti. C'est plus comme ça que ça marche. Après, évidemment, la société civile s'est mobilisée. Il y a des associations, des pétitions, des gens qui veulent faire barrage au Rassemblement national au nom du réflexe du Front républicain. Mais il n'y a pas d'automaticité. Et donc, c'est ce qui peut donner de l'espoir à certains candidats à Rassemblement national, même si sur le papier, c'est très serré.
Au Rassemblement national, les électeurs vous semblent être les plus déterminés aujourd'hui pour appuyer leur parti ?
Alors, la sûreté de vote sur le Rassemblement national est plus faible que sur le Nouveau Front populaire ou les électeurs dans
C'est intéressant. Parti.
La sûreté de choix de vote est voilà, plus faible sur le Rassemblement national et sur les Républicains. Donc, on va voir comment ces mécaniques un peu de vase communicant au niveau de la volatilité de l'électorat va jouer. Maintenant, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais je pense qu'il faut aussi rajouter une donnée qui n'existait pas sur 2022 ou sur le premier tour, c'est l'effet de sidération, entre guillemets, d'un Rassemblement national en majorité absolue. On voit bien que, et vous l'avez dit, la société civile s'est mobilisée, s'est organisée. Il y a eu énormément de mobilisation citoyenne autour du fait de limiter, si on peut dire d'une certaine manière, la capacité à obtenir la majorité absolue. Donc on a un scénario qui n'est quand même pas improbable de personne n'a de majorité absolue et dans tous les cas les coalitions s'imposent.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un sentiment qui serait cela on les a jamais essayés, cette fois-ci on va y aller
Mais c'est plus que ça, il y a une envie.
Il y a
une envie de Rassemblement national dans le pays. Genre on peut en être horrifié ou en être réjoui, mais il y a une envie, il n'y a pas d'envie
de gauche dans le pays. Les élections au premier tour n'ont pas montré une envie de gauche dans le pays. Il n'y a pas une envie de macronisme dans le pays. Il n'y a pas une envie LR dans le pays. En revanche, il y a des gens... On rigole en disant même une chèvre avec une pancarte Rassemblement National serait élue parfois dans certaines circonscriptions.
Oui.
Parce que quand on voit certains candidats fantomatiques ou qui commettent bourde sur bourde, bah, ils arrivent en tête, ça témoigne d'une envie. Il n'y a pas de candidats fantomatiques du Nouveau Front Populaire ou du macronisme qui sont arrivés en tête au premier tour. Donc il y a une réelle envie dans le pays au nom du fameux « on ne les a pas essayés, il faut l'essayer ». Alors ça ne concerne pas une majorité de Français aujourd'hui, il faut bien le rappeler. Mais il y a une envie. Et juste sur les... Il peut y avoir aussi une déconnexion entre les pétitions, on parlait de ça. Beaucoup de gens ont lu le livre de Félicien Faury, qui est un sociologue et politologue qui allait enquêter sur le Rassemblement national pendant de très très longs mois, même des années. Il montre bien qu'il y a aussi une déconnexion entre ce qui peut se passer, ce qui peut être ressenti vu de Paris et des pétitions.
Et le terrain.
Et le terrain, et des gens qui disent...
En fait, la vraie vie des vrais gens. Mathilde, on va bien sûr observer des équilibres entre la majorité sortante et la gauche aussi, ça fait partie des grandes questions.
Bien sûr, et pour l'instant...
C'est parce que derrière, ça génère quelle coalition pour gouverner éventuellement et contrer le RN ?
Il y a énormément de questions qui se posent. Déjà, à gauche, le score de toute l'alliance dimanche soir.
Oui.
Et ensuite, à l'intérieur de cette alliance...
Le rapport de force.
Qui dominera finalement en nombre de sièges ? Est-ce que ce sera la France insoumise, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'au contraire, il y aurait un rééquilibrage qui pourrait intervenir, par exemple, en faveur des socialistes?
Oui, c'est ce que nous a dit tout à l'heure avec beaucoup d'autorité le maire de Rouen, dont je ne sais pas d'où il sortait ces informations, mais enfin qui nous disait, en gros, c'est nous qui allons décider d'une certaine façon.
C'est ce qu'ils espèrent, être...
c'est de la pensée magique, alors.
Si ce n'est dominant, en tout cas, peut-être plus, de manière plus équilibrée par rapport aux insoumis. Et du côté de la majorité présidentielle, il y a une inconnue, c'est-à-dire est-ce que ce groupe qui était en additionnant Horizon, Modem et Renaissance à 250, est-ce qu'il est divisé par deux, donc est-ce qu'il retrouve entre guillemets à peu près 120 sièges, ou est-ce que c'est moins que cela? Et en fait, cette photographie de l'Assemblée dimanche soir va aussi ensuite diriger toute la recomposition politique dans tous les camps, finalement, si ce n'est au Rassemblement national, où en fait c'est le seul camp assez unifié dans cette tripolarisation de la vie politique française.
Quel est le critère qui vous paraît le plus important à observer? Qu'est-ce qui vous intrigue le plus?
Je crois qu'il y a une question à se poser parmi les 1000 questions qu'on évoque ce soir. C'est si on réfléchit un peu à l'arithmétique, du prochain Parlement, Rassemblement national plus LFI, ça va faire combien de sièges, sachant que là, on est autour de 240, 220, 230 sièges pour le Rassemblement national. Personnellement, je ne pense pas qu'ils auront moins que ça. LFI, ils ont 75 députés sortants. Ils ont eu une vingtaine de députés élus au premier tour. Et il leur reste à peu près 110 candidats. Et là encore, j'ai du mal à imaginer qu'ils reviendront avec moins de députés qu'ils n'en avaient dans le Parlement sortant. Donc, vous additionnez les deux, vous êtes déjà au-delà des 300 sièges.
Oui.
Ça veut dire que quelle que soit la coalition que vous allez construire, elle est de toute façon incapable d'avoir une majorité.
Les deux coalitions
Je ne vois pas très bien comment elle arrive à réunir et à asseoir son offre politique sur une majorité.
Sans le RN ou LFI, on ne peut pas avoir de majorité.
Voilà. Et ça aussi, ça nous ramène au point précédent de notre conversation, parce que une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir... Dans quelle mesure le fait d'avoir une offre politique claire va être un facteur déterminant pour les électeurs? Parce que la seule possibilité d'avoir une majorité absolue, et par ailleurs la seule offre politique qui est véritablement claire et crédible, crédible au sens où il y a un programme, etc., c'est celle du Rassemblement national. Et je remets sur le tapis le sondage dont on parlait hier, le sondage IFOP qui dit que 50% des Français souhaitent une majorité absolue et un gouvernement du Rassemblement national, parce que cette proposition politique, on en pense que l'on veut, mais elle a un mérite qui peut être important aux yeux d'un certain nombre d'électeurs, c'est celui de la clarté.
Elle est claire. Vous avez 20 secondes.
Dans l'océan de doutes et d'hypothèses qui nous habitent jusqu'à dimanche soir, il y a une petite certitude qu'on peut avoir pour le jour d'après, c'est que dans tous les cas et dans toutes les configurations, on va devoir changer de culture politique et de culture démocratique pour rentrer dans
le dernier acte de la reparlementarisation de la Ve République. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si le personnel politique arrive à ce moment-là, dans cette reconfiguration, à élever le niveau et changer justement de culture politique, sortir du fait majoritaire, sortir de s'opposer tout le temps ou être sûr d'avoir raison pour toujours.
C'est une forme de saut dans l'inconnu. Merci infiniment les uns et les autres. Dans un instant, vous retrouvez Alice Darfeuille sur BFM TV. Très bonne soirée sur notre chaîne.